Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes tous les bienvenus au club La Presse que nous animons ce jour, le jeudi 23 novembre 2023. Et nous saluons nous tous, que nous soyons sur Canal FM à Lomé ici, ou encore sur les antennes de Radio Lumière à Nero, Radio La Paix, La Voix del Plateau à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapam. Et c'est pas fini, cette émission est écoutée partout en Afrique, dans les Amériques, en Europe, en Asie, sur toutes les îles, grâce aux médias numériques Radio Le Bénin et Bénin Radio, l'application Canal FM et même la chaîne YouTube. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Les producteurs de coton qui se donnent rendez-vous dans notre pays depuis le 21 novembre. Nous allons chercher à savoir qui ils sont, ce qu'ils sont venus faire à Lomé et surtout ce qu'ils attendent de leur filière de production, savoir le coton. Et le dossier de nos confrères Loïc Lawson et Anani Soussou est toujours à la une avec ses appels à leur libération. Et puis autre sujet, c'est le fichier électoral du Togo que l'OIF est venu certifier, valider, ce qui n'enlève rien à la polémique qui ne fait s'enfler. Et puis nous allons repartir sur les traces de Florian Singwe en Allemagne, ce qu'il est allé faire, qui il a vu, avec vraisemblablement avec quel résultat il est rentré au pays. Mais c'est une tradition, avant d'aborder tous ces sujets, nous choisissons de nous laisser inspirer par une parole de sagesse. Et aujourd'hui, c'est le Dalai Lama, le leader spirituel des Tibétains, qui a écrit que lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau. Encore une fois, lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je vais plutôt parler moins aujourd'hui et vous écouter. Comme ça, j'apprendrai sûrement. N'est-ce pas, Michel Tadja?
Ah oui.
Mais c'est toi qui parleras et moi je vais apprendre.
Et vice versa.
Merci beaucoup, Michel Tadja. C'est le journal Ouara le Vainqueur paru aujourd'hui. Jean Legrand Oulo Polorini de Canal D, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux conférences studio, bonjour aux invités.
Ta batterie est déchargée?
Non, pas encore.
Ou bien tu es aussi grippé comme moi?
Non, pas du tout.
Ou bien tu deviens comme Michel, c'est-à-dire moteur diesel?
Bon, c'est vrai, il faut imiter les grands frères.
Ok, nous allons juger.
Voilà, bonjour également aux techniciens derrière la baie vitrée et à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
Notamment nos épouses, n'est-ce pas?
Bien évidemment,
moi, ça. Michel et Lomati Tchogwe qui va arriver. Les techniciens, comme il y a un seul qui est marié, sa femme va l'écouter, l'autre, je ne sais pas si ses parents vont l'écouter, il s'appelle Jérôme. Et puis, nos invités qui sont avec nous, ils nous viennent du monde du coton. J'ai annoncé tantôt que Lomé abrite un atelier des producteurs du coton de tout le continent africain. Le sujet nous intéresse et nous avons sollicité qu'il leur plaise de se libérer un peu de leur atelier pour venir nous rendre visite. Ils ont répondu, nous leur disons merci eux. C'est M. Koussou Kourofei. Bonjour M. Kourofei.
Bonjour.
Vous êtes le président du conseil d'administration de l'APROCA, Association des producteurs du coton africain. Mais au plan national, vous êtes le président de la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton, n'est-ce pas?
Oui, n'est-ce pas, c'est ça.
Et à vos côtés, un frère qui nous vient d'Afrique, notamment du Mali, M. Youssouf Jim Sidibé. Anis Roma.
Amba Anis Roma. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde.
Merci, monsieur Youssouf Jim Sidibé. Il est le secrétaire permanent de l'APROCA. Dans un monde de journalistes, on dirait un peu le secrétaire particulier de mon frère Kourofei, n'est-ce pas?
Absolument. C'est ça, effectivement.
Merci. Alors, ils sont là. Leur temps est très compté. Je ne sais pas s'ils pourront rester avec nous jusqu'à la fin. Autant battre le fer pendant qu'il est encore à votre portée. L'objet de votre présence à Lomé ne laisse pas la presse indifférente. La preuve, dans sa parution de ce jour, le confrère Ouara le Vainqueur dont le directeur en face de nous ici écrit: filière coton, la Proca dresse le bilan de la campagne 2022-2023 et analyse la campagne de l'année prochaine. Autre journal, c'est le journal agricole qui écrit lui aussi que les producteurs de coton africain font le bilan de leur filière à Lomé, pendant que la Nouvelle Tribune écrit lui aussi à la page 4 les producteurs africains de coton en conclave à Lomé. Eh bien, monsieur le président du conseil d'administration de la Proca, voulez-vous commencer par nous parler de votre association? C'est quoi l'association des producteurs de coton africain et dans quel nombre de pays vous êtes opérationnel, monsieur le président?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste de Canal FM. Monsieur Kouroufé Koussoué, je suis le président de l'Association des producteurs du coton africain. Mm-hmm. La Proca est créée en 2004 à Cotonou pour défendre les intérêts des producteurs du coton africain. Mm-hmm. Et le siège est basé à Bamako, au Mali. Et actuellement, nous sommes 15 pays. Mais de l'Afrique centrale, australe et de l'Ouest. Mais actuellement, nous sommes réunis ici avec 6 pays, surtout les pays de l'UMOA qui sont avec nous. Nous sommes là pour le bilan de l'année 2022-2023 mm-hmm. et faire aussi un point sur la campagne à venir 2024.
Monsieur Sidibé, vous êtes le secrétaire permanent, donc la mémoire vivante de la Proca. Alors dites-nous, pourquoi sur les 15 pays que vous comptez, pourquoi seulement 6 sont actuellement à votre atelier à l'ONU?
Je pense que c'est le fait que tous les pays ne soient pas là, c'est un peu conjoncturel. Ce n'est que conjoncturel et les passagères. Donc, mais les plus gros teneurs producteurs sont là. Mm-hmm. Les autres pays anglophones, de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Est et australe, souvent leur déplacement est un peu difficile, mm-hmm. surtout que quand on n'est pas bien calé dans l'OTAN, c'est des problèmes de vol, des problèmes de visa qui font que ils sont pas là. Donc, c'est ce qui est là. Mais ce qui est important, c'est que les plus grands teneurs, surtout les plus grands grands producteurs sont sur place ici.
Merci. C'est vrai qu'il y a un problème de transport en Afrique. Mmh. Aller d'un pays au voisin, c'est pas évident. Mmh. Le sujet est connu jusqu'à l'Union africaine. L'Union africaine qui a désigné le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, comme le champion du ciel africain.
Absolument.
Nous comptons sur lui pour qu'il trouve des solutions pour que nous puissions aller du Togo au Tchad, de la Namibie au Sénégal et du Zimbabwe au Niger en quelques heures. Alors, continuez avec l'atelier qui vous réunit à Lomé, monsieur Sidibé. Oui. Quels sont les objectifs de cet atelier qui vous réunit ici à Lomé?
Effectivement, essentiellement, notre atelier, c'est de faire le bilan de la campagne 2022-2023 et aussi former les producteurs sur les mécanismes de vente des ventes de la fibre de coton sur le marché international. Mm-hmm. Donc, ce qui est important là, pour le bilan de la campagne, l'objectif essentiel, c'est de savoir quels ont été les volumes de production, quelles sont les difficultés que les producteurs ont rencontrées, mm-hmm. quelles sont les solutions qu'on a trouvées sur place, quel a été l'appui des pouvoirs publics et comment c'est avec ça qu'on partage les expériences les uns et les autres pour voir comment vivre la campagne. Mm-hmm. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nos filières africaines, nos filières cotonnières africaines, dans la plupart des cas, quand on voit le mécanisme de fixation du prix au producteur, c'est le prix sur le marché international qui est déterminant, qui détermine le prix d'achat au producteur. Mm-hmm. Donc c'est bon et c'est important que les producteurs sachent comment le prix, la formation de ce prix sur le marché international, mm-hmm. à combien ça coûte. Combien ça s'est fait? Parce que dans la plupart des cas, nous sommes dans l'ignorance de ces phénomènes. Alors que nous devons assister à la fixation du prix du coton grain pour défendre nos producteurs. Mm-hmm. Donc on a trouvé que cet atelier, c'est aussi un cadre idéal pour lequel il faut former et informer les producteurs sur ce processus. Oui. Puisque la vente du coton se fait en dollars et en livres sterling, en unités de mesure anglaises. Comment faire ces conversions pour pouvoir être branché, que chaque jour, quel est le prix. Donc c'est vraiment important.
Mais à ce niveau-là, justement, M. Sidibé, est-ce que vous, les producteurs du coton africain, est-ce que vous intervenez dans la détermination du prix à l'international, ou du moins, est-ce que les gens vous consultent avant de fixer ces prix?
Absolument non. Raison de plus que nous voulons savoir pour comment ça se fait. Nous ne sommes ni. Quand on vend. Mm-hmm. On subit le prix à l'international, mais on n'influence pas le prix à l'international. C'est ça, justement. Et il faudra que nos filières s'organisent. Comment voir comment nous pouvons influencer la formation du prix à l'international.
C'est une triste réalité qui ne concerne pas que le coton, mais toutes nos productions agricoles et même minières, nous produisons, nous vendons pratiquement à vil prix, les mêmes produits transformés qui nous reviennent à des prix autrement plus exorbitants. Nous avons tous du boulot à la matière, mais je reviens maintenant pour ce qui est de la production de la dernière saison, monsieur le président Kouroufei. Est-ce que vous êtes satisfait de la production du coton aussi bien au niveau du Togo que dans toute l'Afrique?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour dire, la campagne 2022-2023 nous a été tellement difficile parce qu'il y a eu l'apparition de certaines insectes appelés chassides qui ont détruit, qui ont dévasté les champs. Ce n'est pas au Togo seulement, presque dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre aussi, sauf que le Bénin n'est pas trop atteint. C'est ça qui a fait que d'autres ont perdu leur quantité l'année dernière à 50%, 30% dans les autres pays. Mm-hmm. Et notre pays quand même a perdu au moins 11% de notre production. L'année passée, nous avons produit, nous avons emblavé 68 000 hectares pour faire sortir que 46 000 tonnes. Donc, c'est cette campagne que, comme nous avons trouvé des alternatives, les produits pour pouvoir lutter efficacement contre ces chenilles, ces insectes, qui nous a permis à atteindre au moins 100 000 hectares pour cette campagne. Mm-hmm. Et nous attendons faire sortir au moins 80 000 tonnes pour cette campagne.
C'est vos espoirs pour la saison à venir?
Pour la saison, pour le coton semé, pour 2023-2024, qui est en récolte actuellement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais sur le plan africain, presque tous les pays ont chuté. Il n'y a aucun pays qui peut dire que l'année dernière, il a eu un bon rendement. Tout le monde a diminué. La Côte d'Ivoire a perdu 50% de sa production. Le Sénégal, 30%. Le Mali aussi, également, a perdu. Le Mali aussi. Mais les pays ont quand même aidé à subventionner, à aider les producteurs, sans quoi on ne pouvait pas peut-être payer nos intrants que nous avons mis sous nos cotons.
Merci. Monsieur Sidibé, alors est-ce que l'atelier de Lomé vous permet de vous doter des moyens pour rebondir, effectivement, comme le président le disait, pour la saison qui se profile à l'horizon?
Bon, effectivement, avant de peut-être répondre à cette question, il y a lieu de saluer ici le leadership du président de l'APROCA, à la personne de Monsieur Kouroufei, surtout face à cette situation qui a été catastrophique, puisque déjà depuis ces insectes-là sont apparus depuis le mois de juillet l'année dernière, et pratiquement depuis qu'il a senti seulement que les champs sont dévastés, il a organisé une rencontre à Dakar, rencontre au cours de laquelle on a fait le point et on a vu que tous les pays étaient touchés sauf à peu près le Bénin. Et à partir de là, on a appelé un manifeste, l'appel de Dakar. Le manifeste de Dakar, c'est un cri de cœur des producteurs qu'on a lancé à l'ensemble des autorités. Et presque tous les pays ont répondu à l'appel de Dakar pour pouvoir appuyer les producteurs pour faire face au crédit, pour faire face à cette baisse de la production et de la productivité. Et je pense que vraiment, en plus de ça, cet appel a permis de mettre les acteurs ensemble pour faire chercher une solution immédiate. Et il donne à la solution. Ce qui fait qu'on a fait appel à tous les acteurs, surtout les chercheurs, les chercheurs agronomiques de tous les pays. On a mis ces producteurs, ces chercheurs ensemble, qui se sont mis ensemble avec les sociétés cotonnières, avec les producteurs, et avec les fournisseurs d'intrants. Et c'est avec ça qu'on a testé de nouvelles molécules pour trouver des molécules qui se sont avérées efficaces sur les insectes en question. Ce qui fait que pour la campagne écoulée 2022-2023, ça c'était déjà perdu, mais ça nous a permis de prendre les dispositions et d'agir en homme averti pour la campagne 2023-2024, c'est-à-dire la campagne que nous vivons maintenant. Mm-hmm. Encore une fois, c'est ce leadership du Togo est à saluer à travers le président de l'APROCA, parce qu'en fait, il faut se dire, c'est le Togo qui assure les destinées de notre association depuis 3 ans, et il en a encore pour un bon nombre d'années devant lui.
Merci. La production, avec les problèmes qu'on a eu la saison passée, avec l'espoir que ça va rebondir pour la nouvelle saison, les problèmes de fixation du prix à l'international sur lequel vous n'avez pas de maîtrise, mais l'autre problème également, il s'agit de la transformation. Il est avéré que nous produisons du coton que nous exportons, coton graine ou tout au plus les premières transformations. Mais Monsieur le Président, le problème de la transformation du coton africain se pose si nous voulons que cette culture-là nous donne plus de value. Vous êtes producteur, mais il faut quand même que d'autres personnes en aval prennent la relève pour que nous transformions tout ou au moins une partie de notre coton.
Merci beaucoup. Vraiment, c'est pour transformer le coton, c'est de la valeur ajoutée pour que au moins le producteur aussi puisse gagner plus d'argent. Et aussi, comme on le dit, nous avons nos enfants, nous avons nos jeunes, et nous produisons, mais on fait de la valeur ajoutée aux autres pays, que c'est, tout est esté, on ne transforme pas au moins quelque chose. Mais nous saluons quand même le chef de l'État et celui du Bénin, parce que nous avons visité un centre appelé PIB au Bénin, qu'ils ont commencé déjà à faire des t-shirts. Mm-hmm. Et Togo aussi, on a commencé au niveau de plateforme industrielle d'Adéticopé, qui est en train de commencer quelque chose. C'est un appel qu'on va lancer. On est en train de nos gouvernants de faire transformer au moins la grande partie de nos productions pour pouvoir créer des emplois à nos jeunes. Parce que aujourd'hui, sur le plan, on produit plus de 3 000 tonnes de coton africain, 3 millions de tonnes de coton africain, mais ce qui est transformé n'atteint même pas 5% de toute la production, voire même moins de 5% de toute la production. Donc, voilà un peu ce que je peux dire.
Merci,
par rapport à cette transformation.
Nos cotons qui font tourner les usines, en Europe, en Asie, les produits qui nous reviennent, le t-shirt, les pagnes qui nous reviennent très cher, alors que si nous transformions cela, nous serions un peu plus riches. Mais je me suis dit, le problème se pose également chez vous au Mali.
Bon, moi, comme je le dis, je réponds au nom de tous les producteurs de coton africain. Oui. Mais de façon générale, cette problématique de la transformation du coton, elle est là, elle est permanente, elle est présente dans tous nos pays en Afrique. Que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Dans la plupart des cas, 98% de notre coton est exporté. Exporté où? C'est exporté en Asie, comme le président l'a dit. Bon, nous, en tant que producteurs, on veut travailler, on travaille, on produit, on veut quand même qu'on puisse créer des emplois pour nos enfants. Mais on va créer des emplois ailleurs. Bon, certes, maintenant, la volonté politique commence à venir. Mais ce que nous demandons à nos dirigeants, cette volonté politique est à remercier et à encourager. Mais c'est surtout, c'est de pouvoir durer, perdurer là-dessus. Puisque, à un moment donné, il fallait, je prends l'Afrique occidentale, à un moment donné, il y avait plus de 48 filatures. Mais ces filatures-là avaient tous à fermer, il restait deux seulement. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Aujourd'hui, quand même, on est conscient. Les politiques se sentent compte maintenant que nous devons aller à la transformation, obligatoirement, pour faire de la valeur ajoutée, créer des emplois pour nos enfants. On commence, et nous pensons que ça doit être là, ça doit être la persévérance et entretenir que dans la durabilité.
Merci. Peut-être qu'en la matière, les pays africains producteurs de coton pourraient s'inspirer des initiatives du Rwanda et de l'Ouganda qui ont interdit l'importation de friperies.
Voilà,
hein? Et il semble, d'après ce qui nous revient, que dès que ces pays, le Rwanda et l'Ouganda, dès que ces pays ont interdit l'interdiction de la friperie, ça donne beaucoup plus d'idées aux nationaux d'imprimer ce qui se produit dans le pays. Peut-être qu'on peut aller à l'école là-bas et nous enrichir, pourquoi pas. Où le Jean?
Oui, j'ai une question pour nos deux invités. D'abord, je me remercie, bon, pour ne pas dire, je vous remercie vraiment pour l'initiative de vous mettre ensemble. Vous l'avez compris que c'est en étant unis, en étant solidaires, qu'on peut vraiment faire face à tous les défis de votre domaine d'activité. J'ai compris qu'au cours de la saison précédente, les chenilles ont dérangé vos productions. Moi, j'aimerais savoir, au niveau du Togo, est-ce que vous avez ce type d'assurance qui permet de protéger vos productions, vu que c'est un effet externe qui a attaqué vos productions? Est-ce que vous avez un mécanisme pour assurer vos productions en cas de dommage comme ce que vous avez vécu? Deuxième question, vous avez également évoqué la question de la détérioration des termes de l'échange, notamment vous produisez mais vous n'êtes pas capable de fixer votre prix. Est-ce que au sorti de ces rencontres dit quelque temps, est-ce qu'on peut dire que la Proca aujourd'hui aura la capacité de fixer le prix suivant ce que vous avez enduré sur le terrain pour quand même que vous puissiez être revalorisé à votre juste valeur? C'est ma deuxième question.
Merci. Le secrétaire commence et le président conclut.
Président, ok, ça peut aller.
Oui, il faut aller.
Bon, effectivement, la première question même, c'est sur les acides, si j'ai bien compris. Vous voyez, par rapport aux, je ne sais pas, les acides, quel aspect sur les acides, mais ce qui est important aujourd'hui avec les acides, c'est les attaques qu'on fait de manière que, je pense que le président a parlé du niveau des attaques, ce que ça a entraîné sur l'eau.
La production
au niveau du Togo, ouais. Mais pratiquement au niveau de tous les pays. Le président a parlé de ça aussi, non? Bon, mais ce qui est important, peut-être que moi je vais revenir au terme de l'échange, au terme de, c'est-à-dire la fixation du prix. En fait, vous savez, la filière coton est l'une des filières les plus complexes, où il y a beaucoup d'acteurs. C'est le producteur qui est à la base, qui est le point de départ. Après le producteur, c'est les sociétés cotonnières. Après les sociétés cotonnières, c'est les négociants. Après les négociants, c'est les filataires. Après, jusqu'au produit fini. Vous voyez, donc, la formation du prix sort. Nous, on sort en dehors. On est pratiquement pas dans le système. Mais on le subit. On le subit. Je pense, si vous vous souvenez, dans les années 2000, choses, à un moment donné, vous avez vu à la conférence au sommet de l'OMC à Cancun, vous avez vu que nous, les producteurs, on s'est mis ensemble pour décrier les subventions américaines aux producteurs parce qu'ils subventionnaient l'exportation de la fibre et qui faisait en sorte que nous, ici, on ne pouvait pas vendre notre coton malgré sa qualité à son prix réel parce que les producteurs étaient subventionnés. Donc c'est ce qui a amené la formation des pays de C4. Et en ce moment aussi, en même temps, on a formulé des plaintes contre les États-Unis parce que, et les Européens pour subvention parce que c'était la distorsion du commerce international. Bon, jusque-là, la plainte de l'Afrique n'a pas été totalement encore, c'est pas bouclé, mais le Brésil a gagné son procès. Bon, mais c'est dire que à l'accompagnement de nos politiques et surtout l'accompagnement de nos politiques.
Merci, M. Stibet. Monsieur le Président, un complément pour conclure?
Oui, le complément pour conclure, surtout sur l'assurance coton agricole. Et nous sommes en train de négocier avec Zuno Assurance pour pouvoir aider les producteurs à rentrer dans l'assurance agricole. Et ils ont des critères qu'ils nous ont donnés. Nous sommes sur les tractions. Mais comme cela a été arrivé, seulement d'autres pays quand même ont appuyé les producteurs à pouvoir surmonter leurs dettes.
si nous citons le cas de la Côte d'Ivoire, l'État les a payés 72 000 francs par hectare, sur les 72 000, et le Sénégal a payé à 100% les crédits des producteurs. Chez nous, au Togo, nous saluons quand même tous les États, parce que il y a aussi la délégation pour pouvoir apporter les produits qu'on devait traiter pour cette campagne pour ne pas subir les mêmes conséquences. Mm-hmm. Il y a eu une délégation et l'État togolais nous a aussi subventionné pour ne pas avoir plus de, comme on a perdu la campagne terrain, mm-hmm. à la hauteur de 6 milliards, mm-hmm. pour pouvoir, c'est ça qui a maintenu le prix très moins pour que les gens puissent aller à la production.
Merci. Donc, Michel, monsieur. Questions, commentaires?
Non, c'est une question. D'abord, merci. Je vais les appeler ainsi au seigneur du côté africain. Merci. Ce n'est pas tout le temps qu'on a ces personnalités avec nous.
Il faut venir au club de la presse, comme vous allez rencontrer tous les grands du monde.
Je souhaiterais qu'après, que tu reçoives aussi ceux des ignames.
Pourquoi pas?
Et du riz.
Ils sont tous les bienvenus.
L'agriculture doit être au centre de tout. Mmh. Vous connaissez mon credo dans ce sens. Maintenant, je voulais voir par rapport aux insectes ravageurs qui ont attaqué l'année dernière la campagne. Et ce que j'ai pu retenir de vos speeches, c'est que les chercheurs qui sont réunis à Dakar ou je ne sais pas...
À Lomé,
ici, voilà, pour trouver, c'est eux qui sont arrivés à trouver... des nouvelles molécules pour pouvoir faire face à cette situation. Est-ce que, en tant que responsable de la filière cotonnière, est-ce que vos potentiels acheteurs, puisque vous avez dit que 95% pratiquement est importé, le coton
est exporté.
Est-ce que ce n'est pas, vous avez essayé de faire un clin d'œil à vos potentiel acheteur là pour voir s'ils peuvent aussi vous apporter une aide dans la lutte contre ces insectes-là.
Monsieur le Président?
Oui.
Puisqu'ils viennent juste ramasser seulement, il faut qu'ils contribuent aussi à...
Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous avons tenu la réunion à Lomé ici. Après Lomé, nous sommes rencontrés à Abidjan avec surtout tous les firmes, ceux qui nous amènent les produits. Nous leur avons quand même parlé de la diminution du prix. Et surtout, ce que nous avons plaidoyé, c'est la gestion des emballages. Nous leur avons dit, ils nous apportent quand même des produits bruts. Et s'il y a des conséquences, c'est nous. S'il y a quelque chose, c'est nous. Mais au niveau de la gestion des emballages, ça nous crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a aussi d'autres partenaires qui viennent pour avoir... un coton le coton est qualifié sur le plan parce qu'il faut avoir faire la gestion des emballages, ouais. Il faut avoir nettoyer, par exemple il ne faut pas traiter au bord ou bien puiser de l'eau au bord de la rivière, coton tout ça là maintenant, oui, avec tous ces critères normalement c'est les firmes qui devaient nous aider à collecter ces emballages vides qui seront restés après. Nous avons fait cette plaidoirie, mais ils n'ont pas accepté, mais nous continuons quand même pour qu'au moins ils puissent mettre quelque chose pour pouvoir aider le producteur.
Ils n'ont pas encore accepté. Merci. Il est 11h30. C'est la preuve que la question intéresse. En tant que sommes rejoints par Elom Kossi Adichogwe de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour les confrères et bonjour au
coton. Au seigneur du coton africain.
Voilà, comme Michel dit, au seigneur du coton africain, réuni dans la PROCA, l'association des producteurs du coton africain.
Je rappelle que l'atelier continue chez nous jusqu'à demain.
Oui.
Lomé qui confirme encore, si besoin de le rappeler, notre place de pays ouvert à tout le monde avec notre hospitalité. Et je rappelle que les auditeurs pourront entrer en ligne après la pause de midi, composer le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 pour poser des questions ou émettre leurs commentaires sur tous les sujets. Le premier, le coton. Le deuxième sujet, c'est cet appel Free for Loïc Larson and Sosou Anani. Le sujet continue toujours à défrayer la chronique. Ça fait déjà bientôt deux semaines, enfin, un peu plus d'une semaine, qui sont à la prison civile de Lomé. Canal D s'appelle, enfin, se souvient d'eux et écrit inculpation de Loïc Larson et Anani Sosou, les appels à la libération des journalistes qui se multiplient. Flambeau, hein, aujourd'hui, écrit d'abord en éditorial, secours professionnel, hein, au profit de nos confrères. Autre article de Flambeau, l'Union de la presse francophone internationale, l'UPF international, en médiation à Lomé. Et Lomé Tichou, ton journal reprend le même sujet, arrestation des confrères Loïc Larson et Anani Sosou. Le président de l'UPF international à Lomé, il s'agit de notre ami Madiamba Diagne, que nous avons reçu aussi par deux fois au studio. Il est à Lomé. Il a rencontré la presse hier pour faire d'abord pour profiter de sa présence à Lomé et le premier contact qu'il a commencé à tisser.
Oui, je crois que ça fait aujourd'hui 10 jours exactement que les confrères sont en détention. Je voudrais d'abord souhaiter beaucoup de courage et leur transmettre toute notre solidarité, toute ma solidarité, toute ma compassion. Et hier, justement, le président de l'UPF a voulu rencontrer la presse pour faire le point des rencontres qu'il a eu à faire ici au Togo dans le cadre de la libération des confrères. Et Mandiamba Diagne, il a fait le tour de la question en, justement, en citant des noms, en disant qu'il a rencontré tous les protagonistes de l'affaire, que ce soit le plaignant, les avocats de la défense comme du plaignant, des autorités du gouvernement, pour ne pas dire Madame le ministre de la Communication, et également le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et aussi d'autres autorités, d'autres sommités avec qui il a des relations personnelles pour travailler justement dans le sens de la libération immédiate des confrères. Il a salué également le fait qu'il a pu s'entretenir avec les mises en cause en détention, c'est-à-dire au niveau de la prison civile de Lomé, sans contrainte, sans gêne, mais qu'il souhaite véritablement qu'ils puissent être libérés très rapidement pour qu'ils puissent regagner leur famille. Sur ce sujet, justement, toute la presse togolaise continue de plaider pour la libération des confrères parce que la place d'un journaliste, ce n'est pas à la prison. La place d'un journaliste n'est nullement dans une prison. La place d'un journaliste, c'est sur le terrain pour pouvoir travailler, mouiller le maillot, donner des informations, investiguer et faire son travail en tout professionnalisme. Et dans ce dossier, on souhaite très vivement que le plaignant, qui se trouve être le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, puisse aussi accepter, parce que justement, il y a beaucoup, hein, de demandes de pardon qui se font de part et d'autre, que ce soit au niveau des organisations de presse, que ce soit au niveau des personnalités, etc. Et que justement, les confrères qui sont aujourd'hui en détention, qui continuent aujourd'hui aussi d'envoyer des messages, hein, des messages de mea culpa à l'endroit même du plaignant, pour que les deux parties puissent chacune des parties mettre de l'eau dans son vin pour que nous puissions ensemble faire libérer nos confrères. Ce qui est important en ce stade, il faut le dire, c'est que Loïc Larson et Anani Sosou soient libérés. La suite des événements, c'est-à-dire les garanties de non-répétition, nous, en tant que journalistes, aucun journaliste ne peut prendre des garanties de non-répétition. Mais le journaliste doit et a l'obligation de veiller à ce que son travail soit fait dans le respect des règles d'éthique et de déontologie et dans le professionnalisme qu'il faut pour que la presse s'enorgueillisse.
Merci. Depuis deux semaines, c'est ce sujet qui nous occupe. Toutes les rédactions, les bonnes volontés qui travaillent, les organisations professionnelles des médias, les personnalités, les parents, les amis, aussi bien ici au pays qu'à l'international, c'est tout cela que Canal D résume, à savoir les appels pour la libération de nos confrères qui continuent de se multiplier. Oulo.
Oui, ça, vous savez, depuis l'arrestation de nos confrères, il n'a pas manqué un jour sans que des organisations, des personnes, personnalités publiques n'abordent la question. Voilà, c'est dire que c'est un sujet vraiment qui ne laisse personne insensible. Et comme l'homme l'a dit tantôt, et notre confrère aujourd'hui exilé, Ferdinand Haïté, l'a dit, lors de la réception de son prix au niveau de New York, la place d'un journaliste n'est pas en prison. Ce n'est pas en prison. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons tous mal de cette situation. Et avec la venue du président de l'UPF international au Togo, j'ai cru comprendre que toutes les parties ont été approchées pour un dénouement heureux de cette situation. Parce que moi, je le dis, aucune partie n'a intérêt à ce que la situation perdure. Et les confrères en prison n'ont pas intérêt parce que ça va leur laisser un mauvais souvenir. Et le plaignant lui-même n'aura pas bonne presse auprès de l'opinion publique. Et le Togo lui-même également n'a pas une bonne image parce que vous savez, notre pays a fait d'énormes efforts pour qu'aujourd'hui nous ayons une stature internationale. Et il ne serait pas bien qu'à travers ces situations, l'image du pays soit écornée. Je crois qu'aujourd'hui, les différentes parties prenantes sont en train vraiment de travailler ensemble pour que véritablement les confrères puissent être libérés. Comme Elom l'a tantôt dit, l'important actuellement, c'est que nos confrères puissent être sortis de prison. C'est vrai qu'il y a des démarches en cours de clémence un peu partout. Tout le monde est en train de faire des pieds et des mains. Il y a des discussions de couloir pour que véritablement nos confrères d'abord puissent être extirpés de prison et que la procédure peut-être suive son cours, mais qu'ils soient hors, parce que ce n'est toujours pas intéressant qu'on ait cette situation-là. Et je crois que véritablement le plaignant va aider de comprendre les appels des uns et des autres, parce que je crois qu'il n'est pas insensible. Depuis une semaine, il faut être vraiment sourd ou bien de marbre pour faire fi de ce qui se passe actuellement. Et je crois que, de part et d'autre, les confrères qui vont sûrement faire amende honorable, et le plaignant va lever sa plainte pour que, véritablement, ce soit une ancienne histoire.
Maintenant, il reste à espérer que tout cela remonte jusqu'au niveau du plaignant et qu'il ait également des oreilles pour écouter et un cœur pour décider dans le sens que nous souhaitons.
Non. Je pense qu'à ce niveau-là, comme tu l'as dit, tout le monde a les regards tournés vers le plaignant, puisque nos confrères incarcérés sont dans la prédisposition de faire le mea culpa, de demander pardon, de reconnaître leur erreur. Maintenant, il ne reste que le plaignant, puisque dans tout ça là, toutes ces démarches qu'on fait de gauche à droite, même avec l'arrivée du président de l'UPF international, tout ça là, c'est beaucoup plus du côté du plaignant que les gens regardent. Parce que c'est lui qui a la baguette magique actuellement en main. C'est à lui de voir. Parce que au-delà des organisations à l'interne, si d'autres organisations à l'international viennent en appui, c'est toujours pour lui faire comprendre que à un mode, on prône le pardon et le pardon doit être quand même accepté par les uns les autres. Et aujourd'hui, il lui revient de voir avec tout le débat qui se fait autour de cette affaire, de voir ce qu'il faut. Et il est un grand garçon, on n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire. Il salue de voir. Voilà.
Merci beaucoup. Et sans transition, vous
oui,
continuez.
Je vais dire un mot, parce que justement, dans le cadre de cette affaire, ce matin, il y a eu des informations qui me sont parvenues, justement, en ce qui concerne le traitement de la conférence de presse d'hier. Il semble, selon ce qui se dit de gauche à droite, se susurre dans l'opinion, que justement, dans le cadre de cette conférence de presse, on a soudoyé des confrères pour qu'on puisse parler de l'affaire. Vous savez, quand vous êtes dans une corporation et qu'il y a des choses comme ça qui se passent et que les gens sont en prison, moi j'aimerais dire à ces personnes qui colportent ça que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, je défie personnellement toute personne qui pense que bon, en tout cas, nous, personnellement, au niveau de notre rédaction, on n'a jamais touché le moindre frère, on n'en veut même pas pour pouvoir travailler dans le sens de la libération d'un confrère incarcéré. Nous tous, nous l'avons dit sur ce plateau la dernière fois, les confrères ont reconnu ou bien ont quand même fauté. D'accord ? Nous tous, on est unanimes déçus. Maintenant, à ce stade, je pense quand même qu'on doit se donner la main pour pouvoir travailler dans le sens de leur libération. C'est ce qui importe aujourd'hui. Et donc, les mauvaises langues qui sont en train de dire des choses que nous apprenons de gauche à droite, moi j'aimerais leur dire ce matin, il y a un Dieu pour tous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, la roue tourne. On sera là, on regardera aussi.
Juste rappeler que le principe, c'est la liberté. Et comme l'homme l'a dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je rappelle sur un deuxième point que la plainte que le ministre d'État a formulée contre nos confrères, c'est diffamation, atteinte à l'honneur. C'est vrai que nous lisons des choses, nous écoutons des choses. Il ne faudra pas que les gens poussent d'autres gens à porter plainte contre eux aussi pour diffamation et atteinte à l'honneur. Ce qui vaut pour aujourd'hui, c'est que Loïc Lansol et Anani Soussou retrouvent leur maison, leur rédaction.
Leur famille.
Le reste, on sera toujours là pour en parler. Oui, Michel?
Non, justement. Aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que Loïc Lansol et Anani Soussou vraiment regagnent leur famille, ne serait-ce qu'à titre provisoire. C'est de ça qu'il est question. On ne souhaite pas que leur calvaire se prolonge en prison. Et par rapport à ce que disait l'homme, moi par exemple, hier, moi, c'est par hasard, j'ai appelé quelqu'un, un confrère, et il se trouve qu'il venait d'arriver donc à cette conférence de presse. Et je lui ai la question. Il y a un point de presse, il m'explique que voilà, le président de l'UPR International a fini ses démarches et maintenant il veut porter les conclusions de ses démarches. J'ai dit, j'aurais pu arriver. Mais c'est ce matin même que un confrère m'a encore dit que au départ c'était juste une poignée de confrères qu'on a voulu réunir pour passer le message. Mais il semble que de bouche ont appris, ils sont arrivés. Je ne pense pas que ceux qui ont appris,
comme tu es arrivé là, on va dire qu'on les a tutoyés.
Voilà. C'est comme ceux qui sont arrivés hier là. De toutes les façons, vous connaissez la presse. Bon, c'est pas la peine de tirer sur certains nombres de choses.
Non, Michel, passons. Voilà. Il y a une auditeur qui dit que ceux qui veulent continuer à jouer au bras d'air avec le ministre d'État ADG, ils n'ont qu'à aller prendre la place de Loïc et Anani dans la prison. Et comme ça, le bras d'air va continuer et on verra qui sera gagnant ou le perdant. Nous continuons avec l'autre sujet politique sur la place, c'est le fichier électoral. Avec l'audit que les experts de l'OIF sont venus faire, ils ont rencontré la presse pour présenter leur rapport. Selon leur conclusion, c'est que le fichier est suffisamment fiable. C'est ce titre que reprend Voilà les vainqueurs, recensement électoral, l'OIF qui rassure. Le fichier électoral est suffisamment fiable. Mais ça n'empêche quand même que la polémique continue. C'est le propre de l'homme, surtout en politique. Et c'est ce que le changement résume aujourd'hui. Togo, le fichier électoral validé par l'OIF, ce même fichier contesté par l'opposition. L'opposition dont l'ANC, et là c'est le confrère, le dialogue qu'il écrit, fichier électoral jugé fiable par l'OIF, la polémique en sein de l'opposition, notamment l'ANC, qui estime que ce fichier ne rassure pas. L'ANC dit avoir l'impression que l'OIF a juste été invité à valider quelque chose dont le pouvoir sait qu'il est largement insuffisant. Et l'ANC dit n'avoir pas été informé en amont de la présence de l'OIF pour accomplir cette mission. L'ANC qui dit également que le comité ad hoc dont l'OIF a parlé et qui continue à gérer cette affaire, l'ANC dit n'avoir été associé à rien. Autre formation politique, c'est la DMP qui a rencontré la presse hier et qui dit que pour la DMP, la CENI elle-même est illégale depuis mars 2023. C'est-à-dire les membres de la CENI sont hors mandat, sont hors délai depuis mars 2023. La DMP continue que le recensement électoral a été entaché de nombreuses irrégularités et imperfections reconnues jusqu'au gouvernement en Conseil des ministres et avec d'autres griefs que ce parti énumère et que le journal Le Changement reprend dans ses colonnes. Pour dire, voilà la polémique qui continue à s'enfler. Malgré la certification de notre fichier que l'OIF est venu nous dire.
Oui, ça, on en parlait jeudi passé à la même heure.
Je crois que ce serait faire du bis repetita de dire encore la même chose, parce que moi je ne sais plus quoi dire. On a énuméré tous les aspects de cette question. Mais bon, concernant la rallonge des membres du mandat de la CENI, je crois que le Togo est devenu champion dans l'art de rallonger tous les mandats, de prolonger les gens. Bon, ça ne nous étonne pas. Mais sur la question du fichier, c'est tout de même regrettable qu'on aille encore à des élections à tirer. Et ça n'augure pas de lendemain meilleur, moi je le dis tout de go. Et si les décideurs peuvent véritablement régler ce problème à la base, ça nous éviterait le schéma élection-réclamation, parce qu'on en a assez. Et véritablement, je crois que les acteurs politiques, des personnes matures, de grandes personnes, qui peuvent faire les choses selon les règles de l'art, mais si on ne veut pas le faire, moi je n'ai pas de leçons à leur donner. Ils sont beaucoup plus avancés que nous, et comme tu l'as si bien dit jeudi passé, des personnes d'âge et d'expérience qui sont à la tête de nos institutions.
Merci. Comme il le disait, c'est la même chose que nous disions il y a une semaine. Entre-temps, c'est les partis politiques ANC et DMP qui sont prononcés, qui nous ramènent là-dessus. Maintenant, peut-être que d'autres acteurs se prononcent. Et l'homme ?
Bah oui, je pense que c'est le jeu de ping-pong avant les élections. Ça se passe comme ça dans tous les pays. La question du fichier électoral. Sauf que comme on l'a relevé la semaine dernière, cette mission de l'OIF qui était à Lomé, on n'a pas vraiment eu écho de sa présence jusqu'à ce que le travail ne soit fait. C'est justement ce qu'il faut corriger à l'avenir. Il faudra que la CENI fasse un travail en catimini pour communiquer après. Parce que la caractéristique principale d'un processus électoral, c'est la transparence, la communication. Et donc, la transparence passe par la communication. Si vous avez des experts qui sont là pour auditer un fichier ou pour certifier un fichier, autant annoncer à l'opinion publique que de telle à telle période, il y aura une certification du fichier ou une expertise de ce fichier-là pour que toute l'opinion soit au courant, les journalistes, les partis politiques, etc. Ben, finalement, vous faites le truc en catimini et puis un matin, on se lève, on dit que bon, l'OIF a certifié le fichier, il y a une expertise, voilà les résultats. Bon, vous comprenez que les gens soient quand même estomaqués de la manière dont les choses se passent. Donc, on souhaite qu'à l'avenir, que la CENI puisse corriger cet état de choses en communiquant sur toutes les étapes du processus. Ce n'est pas un processus électoral qui se déroule conformément à un agenda républicain ne peut pas se gérer comme une élection de classe de C1 ou bien on veut chercher un major, bon, CM1 ou CM2, ou on cherche un major bien en 6e.
Et même en CP1, le major est élu devant tous les élèves.
Voilà, sauf que les autres classes ne savent pas qu'il y a une élection dans une autre classe. Donc, on souhaiterait que ça puisse se faire de façon transparente et la communication doit quand même être la priorité ou l'une des priorités.
Michel ?
Oh, bon. Comme les confrères l'ont dit, le jeudi passé, nous avons épilogué sur ce dossier. Bon. C'est maintenant que les partis politiques commencent par réagir. Bon, je ne sais pas leur réaction. Va donner quoi? Parce que l'OIF est déjà très loin. Donc, l'OIF a fait son travail. Mais bon, si l'OIF était ici, quand l'OIF était ici, si les partis politiques, en tout cas, toutes tendances confondues, devaient peut-être se prononcer, peut-être on allait. Maintenant que l'OIF est déjà loin de nous, bon, je ne sais pas. Ces réactions-là vont nous amener à faire ramener l'OIF ou bien amener d'autres experts pour auditer notre fichier électoral quoi. Bon, de toutes les façons dans cette affaire c'est les acteurs politiques au fait c'est leur job quoi. Nous les journalistes on n'a pas grand chose dedans, c'est eux, c'est les acteurs politiques, puisqu'ils sont en premier lieu, c'est eux qui sont en premier lieu concernés. Oui. C'est à eux de nous dire bon, qu'est-ce que
chacun. On fait quoi?
On fait quoi?
Ou bien il propose quoi?
Oui, sinon nous, si l'OF arrive, on nous dit l'OF est là, elle fait ceci, nous, c'est les faits, nous on parle. Mais politiquement là, les journalistes n'ont rien dedans.
Merci.
Donc, il revient aux acteurs politiques de nous dire maintenant que l'OF est parti, on fait comment? Voilà.
En tout cas, une délégation de l'OIF, plutôt une délégation de la DMP, a cherché à rencontrer la représentation sous-régionale de l'UIFICIA Lomé. La rencontre a eu lieu le 20 novembre dernier et la DMP dit avoir protesté ouvertement devant l'UIF de tous les griefs qu'elle a contre l'UIF pour ce travail en catimini. Et la DMP qui continue à dire que le gouvernement a tout de même l'obligation d'organiser les élections législatives au plus tard le 30 novembre. Nous sommes aujourd'hui quel jour?
Le 23.
Alors pour la DMP, le gouvernement a l'obligation d'organiser les élections législatives au plus tard le 30 novembre. La DMP continue que ne pas respecter ce délai constituera une violation de notre Constitution. Et pour la DMP, l'article 52 de la Constitution ne peut aucunement être utilisé pour le gouvernement pour prolonger le mandat des députés. Mais comme Michel l'a dit, c'est des questions politiques. Nous relayons les protestations de l'ANC et de la DMP. Maintenant, les réactions du gouvernement ou bien d'autres partis, si nous en avons connaissance, c'est notre job de vous en informer et que les commentaires continuent. Pendant ce temps, très rapidement, nous revisitons le dernier voyage en date de Faure Gnassingbé en Allemagne. Déjà sur les réseaux et dans les médias, on a eu le compte rendu quotidien. Il a été invité au sommet du G20. Compact West Africa. Il a eu, en marge de ce sommet, à conférer avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a été invité à un dîner de gala à la Belle Vue, la résidence du président de la République fédérale d'Allemagne. Il a eu un bain de foule avec la colonie togolaise. Ça, nous le savons déjà, mais les journaux nous le rappellent. Voilà le vainqueur qui écrit, le chef de l'État qui, à Berlin, a lancé un appel en faveur de l'accès à l'énergie durable en Afrique. Le dialogue, lui écrit, Faure Gnassingbé a partagé les réformes économiques menées avec succès au Togo. C'est pour attirer les opérateurs allemands sûrement. Et le messager également, fort reçu par Scholz et par Frank-Walter Steinmeier. À ce niveau-là également, Michel, on sait déjà tout.
Non, c'est tout. Mais nous avons voulu revenir sur l'accès aux énergies renouvelables parce que le chef de l'État, ou disons le Togo, en fait son cheval de bataille ou bien mène beaucoup d'efforts dans ce sens-là, puisqu'il a été président d'honneur d'un panel où on débattait de l'accès aux énergies renouvelables et il a fait un diagnostic en disant clairement que c'est l'un des problèmes auxquels les pays africains, surtout les pays du sud du Sahara, sont confrontés. Et il a demandé que nous, exhorté donc les partenaires, en tout cas, qui sont quand même en position de nous aider, de faire en sorte que nous puissions avoir d'abord accès aux infrastructures, aux transports, c'est-à-dire les infrastructures de fabrication donc de ces énergies, au transport et à l'installation donc de ces énergies renouvelables, parce que nous en avons besoin pour notre développement, surtout en Afrique du Sahara. Donc c'est pourquoi nous avons voulu en tout cas traiter le sujet sous cet angle, puisque nous estimons que le Togo fait un effort vraiment incroyable dans ce domaine. C'est vrai que nous voulons qu'on aille beaucoup
plus vite,
mais ce n'est pas évident. Ce qui est fait en bien, il faut aussi le relever, et je pense que c'est
qu'on fasse mieux.
Voilà.
Alors je rappelle que l'ambition du gouvernement, c'est que la couverture électrique du Togo soit à 100% en 2030, et nous sommes fin 2023. Et dans ce schéma, le Togo mise beaucoup sur l'énergie, notamment solaire. Ouais. Avec ces centrales qui écument le pays par-ci, par-là, même si nous ne sommes pas
très satisfaits. Et le chef de l'État a relevé que nous sommes déjà à plus de 60% dans les zones urbaines, en termes d'énergie. Donc, c'est ce qui veut dire que, vraiment, il sait de quoi il parle.
Il sait de quoi il parle, même s'il nous arrive d'avoir quelques réserves sur le fonctionnement de ces centrales-là, notamment la centrale solaire Kekeli, que le chef de l'État a inaugurée en grande pompe, mais dont la production nous laisse encore sur notre faim. Vivement qu'il voit, qu'il motive ses équipes pour que, quand le président parle, Il faut que les techniciens réalisent. Et comme ça, nous tous, nous sommes bien.
Oui, n'est-ce pas vous, normalement, ce qui sort de la bouche d'un chef d'État, c'est une lettre de... Ou comment on dit ça là? C'est une note de service.
Oui.
C'est automatique. C'est une note de service. Oui. Oui. C'est comme ça.
Sauf que le service n'est pas toujours rendu.
C'est bon, voilà.
Tu l'as si bien dit, le chef de l'État parlait des énergies renouvelables et durables. Vous savez, cette notion-là a commencé à avoir pignon sur rue depuis qu'on nous parle de changement climatique et tout ça. Le Togo a joué son rôle, mais moi je dis, est-ce que ce message est tombé dans des oreilles attentives ou dans des oreilles du sourd? C'est moi ma grande question. Parce que depuis que nous avons les COP qui parlent du changement climatique, combien de fois l'Afrique n'a pas plaidé pour un financement pour ces énergies renouvelables? On nous dit, nous, pays africains, non, arrêtez d'utiliser les énergies fossiles parce que la couche d'ozone est en train de se détériorer, changement climatique et tout. Pourtant, les plus grands pollueurs, ils en ont fait assez. Nous qui polluons moins, on nous demande de migrer.
Et c'est ce qui a fait leur richesse.
Mais maintenant, nous, à qui on demande de ne pas polluer, les moyens qu'il faut, les conditions qu'il faut pour qu'on ne pollue pas, on n'en donne pas. Mais en quelque sorte, c'est comme si nous sommes à un marché de dupes où le plus malin, le plus intelligent continue d'entuber l'autre. Et moi, je me dis qu'à cette allure, si véritablement les pays occidentaux ne prennent pas la mesure de la chose ou véritablement appuyer l'Afrique, mais croyez-moi, d'ici quelques années, nous allons aussi nous mettre à fond dans ces énergies.
Tout ça, c'est parce que nous sommes des petits, voilà. Nous sommes pauvres et que nous subissons le diktat des autres. Le jour où un pays africain sera riche, aura beaucoup d'or dans son coffre fort, aura même
une arme nucléaire.
Les gens nous regarderont d'un autre œil.
Même ça a commencé, on n'a pas encore d'or dans nos coffres, mais ça a commencé. L'éveil des consciences. Ça a commencé en Afrique.
Merci. Nous allons terminer rapidement avec les rencontres que Lomé, notre pays, abrite. Il y a les cotonculteurs, donc les associations producteurs de coton qui sont chez nous. Et il y a la 18e foire internationale de Lomé qui a ouvert ses portes depuis hier.
C'est officiellement aujourd'hui.
Oui, mais c'est du 22, du 22 au 3 décembre. Okay. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé hier.
Comme nos amis de coton ont vendu beaucoup de coton, il doit leur rester de l'argent en poche pour aller visiter un peu la foire. Et puis, nous anticipons l'année 2024 avec déjà en mars cette rencontre importante qui va porter sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que nous avons parlé en début de semaine, même le rappelons comme Canal D, intelligence artificielle, le Togo qui annonce les couleurs pour 2024, et Ouara les vainqueurs également qui nous en parle, c'est à la page 5, la semaine de l'intelligence artificielle, l'édition 1, est prévue en mars 2024. Nous sommes à 4 mois de cette rencontre importante. Mais il faudra y être parce que c'est un impératif pour les pays maintenant d'aller à l'intelligence artificielle. Michel, 30 secondes.
C'est un impératif. Mais encore faut-il que ces pays-là réunissent toutes les conditions. Nous avons une connectivité
qui demandera être renforcée. Pour parler diplomatiquement.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut d'abord satisfaire avant vraiment d'être dans les deux pieds dans cette intelligence artificielle dont on parle. Et de toutes les façons, c'est une démarche obligatoire parce que nous devons aller, parce que le monde bouge et l'Afrique doit aussi suivre le tempo. Et donc tout ce que moi je demande, c'est que nous réunissons vraiment les conditions avant de pouvoir
Et comme nous le disions, il faut que l'électricité soit partout dans le pays.
Oui.
Il faut que la connexion internet également soit. Et puis le reste, on va le faire. Pour le moment,
le Togo est 23e en Afrique.
Pour, et 143e au plan mondial. 143e au plan
nous
mondial.
Nous sommes encore très loin.
Oui, mais c'est dire que, moi je dis quand il y a la volonté politique, on peut le faire. Vous savez, au niveau du Maroc, ils étaient loin derrière. Mais en un an, le Maroc est aujourd'hui à la 5e place au plan africain. C'est dire que lorsqu'il y a la volonté politique et les énergies sont mobilisées, je crois qu'on peut faire des pas de géant. Vous savez, en 2018, Vladimir Poutine, le président russe, avait dit quelque chose qui est passé anodin, mais aujourd'hui qui se révèle vrai. Il a dit, celui qui gouvernera l'intelligence artificielle va diriger le monde. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, tous les pays occidentaux sont dans la course à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Ce qui paraissait anodin aujourd'hui n'est plus anodin parce qu'aujourd'hui c'est le big data, la gestion de données. Et quand on nous connectait sous les moteurs étrangers, vous avez le ChatGPT dont on parle, mais vous fournissez vos données gratuitement à ces pays occidentaux et ils ont une longueur d'avance pour prédire tout ce que nous faisons. C'est aujourd'hui pour ça que les pays africains, l'État du Togo, veulent détenir eux-mêmes leur base de données parce qu'aujourd'hui, il faut que nous apprenions petit à petit à être indépendants.
Et félicitations à notre premier champion en la matière, Dr Malik Maurice Mouzou. Et vivement que d'autres génies émergent à ses côtés pour que nous soyons nombreux à aller à cette intelligence africaine. Il est midi, parce que deux minutes, nous suspendons nos échanges ici. Le temps que Michel adresse le clin d'œil de la radio à nos partenaires, puis nous rebondissons avec les auditeurs qui peuvent nous ramener par leurs questions et leurs commentaires sur l'un ou l'autre sujet dont nous avons débattu. 93.5 Eh bien, c'est parti sur le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Nous réceptionnons vos questions, vos commentaires. Il y a déjà un premier auditeur?
Oui, allô?
Oui.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, monsieur Senghor?
Oui.
Nous vous écoutons.
Vous avez parlé de Père de l'Homme.
Je ne vous reçois pas très bien, la communication n'est pas bonne.
Vous avez parlé du Père de l'Homme, parce que quand le cœur est bon, on peut tout faire. Oh, aujourd'hui, moi je suis un évangéliste, c'est quand je voudrais me présenter pour le pardon de mon collègue évangéliste, parce que, voyez, non, si nous sommes réellement des serviteurs de Dieu, on prêche, on fait tout, un chrétien, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas aller à l'église, mais c'est la vie, c'est le cœur. Vous voyez, si quelqu'un peut quitter d'ailleurs au Sénégal, où les gens parlent du pardon, quand ils peuvent faire un tout génie, nous savons comment pardonner, alors là c'est grave. Et vous voyez, donc dans la vie, nous avons des bons cœurs. Nos dirigeants,
monsieur Senghor, nous inscrivons de plus en plus dans cette dynamique. Vivement que le plaignant nous écoute et que cette affaire-là soit réglée, que nous passions à autre chose. L'auditeur suivant, bonjour.
Bixas,
oui.
Bonjour.
Monsieur
Gado.
Monsieur Gado.
Oui.
Nous vous écoutons.
Un collègue a dit tout à l'heure que l'OIF est loin. Branche armée de la France, hein, Gaza, Hamas de la France est parti, elle est loin, d'accord. Maintenant, les élections y sont loin. C'est vrai, les élections sont loin. C'est une bonne chose de mettre la balle à terre maintenant et recommençons. Puisque les élections ne sont pas pour aujourd'hui ni demain.
Donc si, pourquoi ne pas mettre la balle? Les élections sont déjà, en principe, nous devrions être dans la ferveur de l'élection actuellement si le calendrier était respecté.
Est-ce que vous avez vu un signe là? Le gouvernement dort. Le gouvernement ne sait même pas qu'il y a élection.
Justement, c'est pourquoi il doit se réveiller.
Oui, justement.
Parce que nous avons des agendas républicains.
Voilà, mais il ne peut pas respecter ça. Heureusement que l'OIF est loin, les élections sont loin. Maintenant, posons la balle à terre et appelons OEA. C'est vrai, OEA est là pour nous départager. Merci et bonne journée.
Monsieur Gado avait son style tout particulier. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô,
oui. Allô. Je ne vous reçois pas bien.
Koulani, depuis avant, je salue vos confrères.
Ah, monsieur Koulani.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Juste pour parler de l'affaire des journalistes.
Mm-hmm.
Et si moi je veux m'adresser aux magistrats, que les magistrats ne peuvent pas comprendre, d'abord plusieurs fois, ils ont jugé des gens en être voulu ici. Ils sont déportés à CDAO, ils ont eu raison. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de flotter. Aujourd'hui, le ministre a porté plainte. Vos collègues ont réellement les preuves. Ils ne veulent pas montrer leur souffle. Ils ne veulent pas le montrer. C'est normal, c'est le rôle des journalistes. Donc les magistrats n'ont pas libéré ce jeune. Ce n'est pas des malfrats, ce n'est pas des impropres. Ils n'ont pas volé. Ils ne sont pas des brigands. Ils ne sont pas des djihadistes. C'est des gens qui travaillent avec les sources de prix. Pour qu'ils rentrent à la maison et ils voient la justice, ils croient que la justice soit faite. Parce que le ministre là, ou bien M. Abidjan, n'a pas compris, il n'a pas tout pris, et nous irons jusqu'au bout. Mais quand on libère les gens, ils rentrent à la maison, ils ne veulent pas fuir. Et nous pouvons porter garantie. Ils veulent qu'on dépose l'argent pour leur garantie, on peut cotiser pour eux. Là, je m'adresse au magistrat. Merci pour votre chef.
Je vous en prie, l'ami Colani, qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Oui, c'est Félix.
Oui, allez-y.
Bon, je voudrais parler directement à monsieur, votre collègue, M. Tchanga, qui parle que le fichier électoral n'engage que les politiciens. Ça, c'est très faux. Le fichier électoral, ça concerne tous les Togolais. Quand on parle des élections, ce n'est pas une élection pour les politiciens. Le parti politique, celui qui a créé son parti politique, il veut animer la vie politique. Ça n'exclut pas que les journalistes doivent...
L'ami Pelé, il ne s'agit pas d'engager une polémique avec Michel. La question est posée. L'OIF est venu se prononcer sur le fichier et nous ne faisons que... Nous avons informé sur la conférence de presse de l'OIF et maintenant les réactions des différentes parties politiques, nous les partageons avec vous.
Non, mais je ne m'en disconviens pas.
Oui.
Lorsque un journaliste est là, vous êtes des journalistes, vous avez le quatrième pouvoir. Les politiciens n'ont aucun pouvoir.
Non, nous demandons plutôt que les partis politiques assument leurs responsabilités.
Voilà, et c'est là où j'en viens.
Oui.
C'est là où j'en viens que le politicien, il prend le pouvoir. Et là, c'est à partir de là qu'il a le pouvoir. Mais le journaliste, la constitution lui donne le pouvoir.
L'ami Pelé, vous savez, l'ami Pelé, les partis politiques ont commencé à se prononcer quand? Alors que dès que... L'OIF a fait sa conférence de presse. Nous, les médias, nous avons commencé à relever les insuffisances de ce travail. Chacun fasse son travail et nous nous porterons tous mieux. Il ne s'agit pas d'engager une polémique avec Michel ou bien avec les propos qu'un confrère tient aussi au club de la presse. Nous passons au suivant. Bonjour.
Bonjour, Abdel.
Oui, Abdel.
Bonjour,
je ne vous reçois pas très bien. Oui, Abdel. Oui, sauf que la communication n'est pas bonne.
Ah,
oui, vous êtes en mouvement?
Non, je ne suis pas en mouvement.
Ok, malheureusement, ce n'est pas très bien. Raccrochez et rappelez-vous, peut-être que ce sera bon. Oui, il y a une autre en ligne, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui.
C'est Armand.
Nous vous écoutons.
Oui, c'est juste pour dire que bon, moi je ne comprends pas vraiment pourquoi les uns et les autres se lèvent contre l'OIF. C'est vrai que beaucoup disent qu'ils sont venus en catimini, mais bon, ils ont été invités par quelqu'un. C'est la personne qui devait annoncer les couleurs. Maintenant, l'OIF, bon, quelque part, elle a fait son travail. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle vient. Bon, pourquoi bon, les gens... C'est vrai que nous sommes en politique, tout le monde a son agenda derrière. Bon, maintenant, on crie sur l'OIF comme si l'OIF devait faire quelque chose de particulier.
Non, l'ami Armand, c'est que l'OIF connaît le Togo et ses problèmes politiques. Alors, ce qu'on reproche à l'OIF, c'est de venir s'associer à quelque chose qui s'apparente à une forme de complicité. Si je résume un peu la pensée des partis politiques qui commencent à s'exprimer.
Oui, quelqu'un avait dit que les gens n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Merci.
Et si tes intérêts heurtent les intérêts de l'autre, tu comprends qu'il ne te porte pas dans son cœur.
Je comprends, merci.
Je vous en prie, l'ami Armand. Abdel est de retour, peut-être. Bonjour.
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Oui.
J'aimerais encourager notre citoyen à éviter le polémique avec les journalistes. Le seul foutu ici, c'est la CENIO. C'est la CENIO qui a fait toute l'erreur. Et l'IEF n'a fait qu'en campagne. Dans le rapport de l'IEF, je n'ai pas cru attendre que l'IEF a relevé qu'il y a eu des mineurs qui ont été extraits de la Nice. Autant on a vu des élèves sucrés de réjusion. On a arrêté des élèves. Mais on ne nous a pas parlé de ça. Elle est venue juste pour consolider ce que la CENIO est en train de faire. Mais les citoyens ont remarqué des suffisances. Tout le monde a créé. Même le gouvernement a reconnu. Et le l'IEF vient dire que c'est bon. Mais c'est trop facile de dire ça. J'aimerais encore interpeller le ministre Abogé de bien vouloir demander la libération de nos grands frères, hein, les journalistes là. Merci. Ils n'ont rien fait de mal.
Merci beaucoup.
Même lui aussi a commis des erreurs. Lors de la gestion de la cuisine, je crois l'avoir entendu dire qu'ils n'ont pas respecté la procédure pour le dégagement des fonds d'État. Parce qu'ils étaient dans une urgence. C'était une erreur, non? C'était une faute. Est-ce qu'il a été emprisonné pour ça? Merci beaucoup.
Je vous en prie. Je rappelle que nous avons beaucoup parlé de coton. Un coton qui est quelque chose de très important dans nos économies en Afrique. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, M. Sassegaro. Oui, je me nomme Benoît Dagwe.
Oui, nous vous écoutons, Benoît.
Bon, si vous avez préparé une sauce et vous savez que la sauce n'est pas bonne, vous allez appeler, et vous saurez que la sauce sera critiquée, vous appelez les experts. Que vous savez que quand vous faites sortir la sauce là, il y aura critique. Celui qu'on va vous demander les experts pour venir. Donc vous l'avez
vous
fait.
Vous voulez aller directement à votre
okay, ministre. Je disais que même le parti uni, le gouvernement, comme l'a dit certaines personnes maintenant, le gouvernement fait que la liste là n'est pas fiable. C'est pourquoi plutôt ils ont vite couru pour appeler l'OIF. Maintenant que c'est déjà fait. On va aller ensemble. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que un de vos journalistes a dit que prochainement, le gouvernement, ils ont pris nous prochainement, on va faire mieux. Et ne faites pas des erreurs et on va dire demain qu'on va rectifier. Comme l'a dit monsieur, je termine par là, comme l'a dit monsieur Garou, on ne sait pas encore la date des élections. Donc, remettons la balle à terre. Pour revoir le fichier
électoral. Et quand vous dites ça, vous pensez à qui?
Nous, là.
Vous dites à qui vous demandez de remettre la balle à terre?
Le parti au pouvoir et tout le monde, quoi. Surtout le parti au pouvoir, la CENI.
Ok. Le parti au pouvoir, le gouvernement, la CENI.
Oui.
Qui remettent la balle à terre?
On n'a qu'à refaire la liste, revoir la liste électorale, okay. Recenser les gens. Okay. Déjà, nous avons dépassé le temps. Donc, ce n'est plus la peine de dire que nous sommes
à filer par le temps. Je présume que toutes ces personnes que l'ami Benoît Dagwe a écouté, ils ont écouté. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, Sass.
Oui. Pardon? Basile.
Basile.
Oui.
Je salue le plateau.
Nous vous saluons aussi. Diminuez le volume de votre poste récepteur.
Je m'éloigne davantage.
Ok.
Un plateau bien fourni. Bon, moi, je comprends le Togolais dans son ensemble. Parce qu'on est profondément je ne sais pas, appauvri que bon. Les gens ne viennent pas tenir des langages qu'il faut. Moi, je suis d'accord qu'on vienne nous dire que on n'est pas venu pour faire plaire, pour tout ça là, ou bien ce n'est pas seulement au Togo. Mais ils oublient, c'est-à-dire un côté de la chose, que c'est ici au Togo que c'est une seule mouvance qui est là depuis des années. Quand ils disent que ce n'est pas seulement au Togo, et nous, quand nous ajoutons que ben, c'est vrai que c'est une seule mouvement qui est là, jusqu'à présent. Ce truc de l'OIF dont on parle, tous les acteurs dans leur ensemble, tous les acteurs ont constaté que ce fichier, ce n'est pas un bon fichier. Mais comme tous on le sait, ce que l'agent du Togo fait, mais ils sont venus, vous avez vu. Mais il ne faut pas qu'on vienne nous dire
merci,
comme ça.
Merci beaucoup, Basile. Je constate que tous les auditeurs se sont intéressés à la question du fichier électoral et à la libération de nos confrères. C'est bien. Sur les quatre sujets discutés, deux ont intéressé les auditeurs. Mais tous ceux qui nous ont appelés, qui nous ont parlé de ça, ils sont quand même habillés peut-être en tissu coton aujourd'hui. Monsieur Kourofaï, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion, plutôt, pour le paradigme de forme, je commence par le secrétaire permanent, monsieur Sidibé, qui va nous délivrer sa conclusion avec le président Ponctu.
Il me reste pour nous, à vous, vous remercier d'abord, vous, les journalistes. Je pense que vraiment, on salue beaucoup votre professionnalisme. Aussi, on remercie beaucoup les auditeurs. Et que nous, nous sommes là en tant que producteurs de coton. Tant qu'on va vivre, on va s'habiller. Et pour s'habiller, on ne va pas le faire en tissu synthétique. Bien sûr, on va le faire en cotonnade. Mm-hmm. Et en cotonnade africaine, produite chez nous. Et par nous, les cultivateurs, filés chez nous, et qui va créer des emplois pour nous, et aussi faire générer des ressources. Mais vous avez abordé des ressources. Vous avez abordé aussi un sujet qui est capital. Vous avez vu, certains pays déjà africains commencent à interdire la friperie.
Oui.
Je pense que c'est vraiment important, c'est capital. Et aussi, il faudra qu'on essaye de contenir les contrefaçons chinoises.
Mm-hmm.
Je pense que c'est important aussi pour nous. Mais ce qui est important, nous, en tout cas, producteurs, on s'engage à produire du coton, à créer des emplois et à habiller tous les Africains avec notre production, avec notre sueur et avec notre savoir-faire local.
Merci à vous, monsieur Youssouf Djimé Sidibé. Il est le secrétaire permanent de l'Association des producteurs de coton africain, dont le président du conseil d'administration, M. Kourofaï Koussoué, avec nous. Monsieur le Président, votre conclusion.
Merci. Moi, je vous salue, surtout vous, les journalistes, et tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés. Nous remercions tout le monde et nous invitons tout le monde à se donner à la production du coton. Nos jeunes frères qui sont à Lomé, qui sont partout, qu'il y a de bonnes choses dans la culture du coton. Et en travaillant le coton, on peut avoir beaucoup de choses parce que dans les zones cotonnières, il y a le céréal. On fait tout. Et c'est ça qui fait que, si vous voyez les zones cotonnières, c'est les zones céréalières aussi. C'est nous qui produisons plus le maïs, on produit le soja, on produit tout. Donc, venons à la production du coton pour que nous puissions alimenter l'industrie que le chef de l'État a mis à détricoper pour pouvoir fournir des t-shirts à nos jeunes et créer des emplois. Merci à tout le monde. Et
le coton est créateur de richesses. Merci. Aussi bien pour le parti au pouvoir, pour ceux qui aspirent à aller au pouvoir pour les prochaines élections à venir. Oulo, une minute pour ta conclusion.
Conclusion, j'ai une interpellation à faire au niveau du centre de formalité des entreprises. C'est un carton jaune. C'est bien vrai qu'on veut que tous nos services publics soient digitalisés. Mais quand la digitalisation a du plomb dans l'aile, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on règle le problème, que de toujours continuer pour encourager les gens qui vont être mal servis. Depuis que la digitalisation a été mise en place au CFE, nombreux sont les usagers qui se plaignent. Vous entrez tous vos coordonnées dans la base de données, on vous dit que la carte n'est pas sortie. Après, on vous demande de renvoyer un mail. Et c'est des problèmes pendant des jours avant que vous ne puissiez obtenir votre carte. Récemment, un usager a voulu créer une entreprise. Dès qu'il a entré la raison sociale, le nom de l'entreprise, on dit que non, le nom est libre, qu'il peut créer. Il finit la formalité, il paye, et le lendemain, on lui dit non, que le nom est déjà occupé, donc il faut refaire la procédure. Mais pourquoi le nom est occupé et la base de données n'a pas signalé cela? Il se plaint et depuis une semaine, on lui dit appelle à 15h, appelle à 17h, appelle à 8h, et tous les jours, le gars ne fait qu'appeler. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. Véritablement,
Il faut que les autorités essaient de voir. C'est vrai, nous n'accusons pas la direction de la structure, parce que les instructions de digitaliser ces services sont venues de loin.
Et cela le fait
actuellement un carton jaune.
Et je reviens à la proposition de Michel. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que nous allions à l'intelligence artificielle? Ce qui se passe au CFE y participe.
Alors que ça, laisse-moi terminer. Quand nous étions au manuel, vous déposez votre document le matin, le soir, votre carte. Aujourd'hui que c'est digitalisé, vous faites une semaine parfois, vous n'avez pas votre carte. La digitalisation, elle est où en fait? Qu'on nous explique.
Merci beaucoup. Et là,
j'ai aussi un coup de gueule, mais ça concerne la direction régionale de la santé des plateaux. Mm-hmm. Ça fait un an que des radios de l'intérieur ont diffusé des messages de Wezou. Mais on a payé toutes les radios de l'intérieur, sauf celles des plateaux. Et je souhaiterais que le ministère de la Santé règle ce problème d'urgence. Parce que c'est un problème qui couvre depuis un an. Tout le monde a été payé sur le même budget, mais les plateaux, il y a des radios, plusieurs radios qui n'ont pas été payées. Donc c'est le ministère de la Santé qui le dit. On nous dit Wezou avec tous les résultats qu'on a, les médias, il y a des médias de la région des plateaux, je précise, des radios, qui ont diffusé des messages qui n'ont pas été payés depuis un an. Bon, maintenant, à l'endroit des cotonculteurs, je voudrais justement qu'à l'avenir puissent associer les producteurs d'emballage. Vous savez, l'emballage est stratégique dans la production de l'agricole. Mais il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce volet de la chose. Souvent, aux grandes conférences, aux grandes initiatives, on associe les agriculteurs, on parle des agriculteurs, on leur dit des choses, mais on oublie souvent ceux qui sont les producteurs d'emballage. Parce qu'à la fin, si vous avez un produit bio que vous mettez dans une emballage qui contamine le produit, à la fin, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est un nouveau créneau sur lequel beaucoup ne se positionnent pas encore, mais qui est très stratégique, l'emballage du produit agricole. Donc, je souhaiterais vivement qu'à l'avenir, on puisse réfléchir à cela et regarder comment on peut interagir pour pouvoir protéger les produits agricoles.
C'est pour dire que la forme peut donner beaucoup plus de valeur au fond. Michel Kaja?
Bon, je ne voulais pas répondre à celui qui m'a interpellé, parce que tu l'as déjà... répondu, si je peux considérer ça comme ça, parce que bon, je ne vois pas pourquoi il s'acharne sur moi. Je ne suis pas un politique, moi je suis journaliste. Peut-être qu'il souhaiterait, comme on le connaît dans ce pays, que les journalistes prennent la place des politiques. Moi je ne le ferai pas. Je commente en tant que journaliste. S'il veut, il vient te voir, il commente en tant que politique. Voilà. Maintenant, et par rapport à la connectivité, vous savez, il y a des gens qui défilent chez toi ici. Qu'il suffit d'un clic, il suffit de quoi? Il suffit de quoi? Là où on n'est pas sûr, on peut continuer manuellement, en entendant. Je vous assure, on fait souffrir des Togolais dans beaucoup de, de coins dans l'administration, que ce soit privé ou public, qu'il suffit d'un clic, il suffit de quelque chose. Et on fait souffrir des gens pour rien. Vous allez faire rien. Je vous donne un exemple.
Oui, on va finir par là.
Oui, je prends l'exemple de La Poste. Je sais que c'est la même chose pour beaucoup de banques et choses. La Poste, un service que.
Ils sont passés au
Je respecte beaucoup parce qu'ils font, ils sont très accueillants. Vraiment, ils sont extraordinaires dans ce domaine.
Oui.
Mais il y a un hic. Le hic, c'est quoi? C'est leur carte magnétique. Vous introduisez la carte magnétique que vous cherchez l'argent. Bon. On vous avale la carte et après on vous dit que non, qu'il n'y a pas de connexion. Et le montant que vous avez demandé, on le soustrait. Si à supposer que vous avez besoin de 50 000, c'est ça seul qui est sur votre compte. Et ils vous avalent. Donc vous ne pouvez pas rentrer, prendre les 50 000 manuellement. Il faut encore une procédure, aller écrire, et de me faire demande que bon, on vous a triché. Non, non, non.
Tout
non,
ça, c'est
non,
dans
non,
le clic.
Non, 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 non.
Merci, Michel. C'est fini pour aujourd'hui. Le Club La Presse se retrouve demain pour conclure la semaine en beauté. Que Dieu soit avec nous.